Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
16 femmes et 35 enfants de djihadistes, la France vient de les rapatrier de camps de prisonniers en Syrie. L'une de ces femmes, Émilie Koenig, est déjà mise en examen et placée en détention provisoire.
Les précisions de Louis Dragnel dans un instant. 200 000 cas de Covid en 24 heures. Le ministre de la Santé appelle à remettre le masque dans les lieux bondés. Dans ce journal, la joie des nouveaux bacheliers milésiens 2022, mais le taux de réussite est en baisse de près de 5% par rapport à l'an dernier. Et puis un père prof de sport, une mère danseuse, Hugo Duminil-Copin décroche la très prestigieuse médaille Fields, équivalent d'un Nobel de mathématiques.
La tendance météo, c'est avec vous Valérie Darmon, bonsoir.
Bonsoir à tous. Des températures qui perdent de 2 à 3 degrés dans le Var et sur la Corse après des pointes à 39-40 aujourd'hui. Risque élevé d'incendie dans ces régions à cause du Mistral et de la Tramontane et des averses orageuses sur les Pyrénées.
Europe 1. C'est donc le premier rapatriement massif de femmes et d'enfants de djihadistes depuis 2019. 35 mineurs, des enfants et 16 mères sont arrivés en France aujourd'hui.
Oui, tous étaient détenus par les Kurdes dans des camps de prisonniers du nord-est de la Syrie. Rapatrier des enfants et leur mère, Louis Dragnel, jusqu'ici ce n'était pas la doctrine de la France.
Oui, absolument. Ce qu'il faut retenir, c'est la rupture de la politique de la France. Jusqu'à aujourd'hui, les retours d'enfants de djihadistes se faisaient au cas par cas. Une stratégie contestée par certaines associations qui réclamaient leur retour inconditionnel, accompagné de leur mère, peu importe leur implication au sein de l'État islamique. Donc, pour la première fois, la France organise le retour d'enfants et de leur mère, un changement de stratégie qui a fait l'objet d'intenses débats internes au sommet de l'État entre ceux qui considèrent qu'ils doivent rester et être jugés sur place, en clair, éviter d'importer des bombes humaines, et d'autres qui pensent que la France doit tous les faire revenir pour mieux les suivre et éviter qu'ils soient dans la nature. Alors, dans le détail, on parle de 51 personnes, 35 mineurs, dont 7 mineurs isolés et 16 femmes âgées de 22 à 39 ans. Toutes sont françaises, sauf deux, dont les enfants ont la nationalité française. 8 femmes ont été placées en garde à vue, tout comme un seul des 35 mineurs âgé de 17 ans, soupçonné d'association de malfaiteurs terroristes. Tous sont désormais suivis par la DGSI et les mineurs seront pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, un suivi très compliqué en raison des atrocités qu'ont vécues et parfois commises ces enfants, comme ceux par exemple qui ont été entraînés à tuer le plus de prisonniers possible chronomètre en main ou ceux qui sans aucune émotion ont été formés à torturer. Pour terminer, ces 35 mineurs s'ajoutent aux 126 déjà rapatriés en France depuis 2016. Ils restent près de 165 mineurs et 80 femmes dans les camps du nord-est syrien contrôlés par les Kurdes.
Et parmi les 16 femmes qui viennent d'être rapatriées, un nom retient l'attention, Émilie Koenig. Elle vient d'être mise en examen et placée en détention provisoire.
Oui, une Bretonne de 37 ans, née à Lorient, placée sur la liste noire de l'ONU des combattants les plus dangereux. Au moment de son départ en 2012, elle abandonne ses deux enfants. Sur place, elle donne naissance à 3 autres enfants. Les services de renseignement la considèrent comme une des recruteuses de djihadistes les plus actives de l'État islamique. Elle avait aussi incité à plusieurs reprises les musulmans à attaquer des femmes de militaires français. Interpellée fin 2017 par les forces kurdes soutenues par la France, elle était donc dans un camp de réfugiés depuis cette période. À plusieurs reprises, elle a demandé à la France son rapatriement, qui a donc eu lieu aujourd'hui.
Émilie Koenig, qui, selon son avocat, a l'intention de coopérer pleinement avec la justice française. Et puis, on l'apprend à l'instant, Paris confirme la mort d'un second combattant français en Ukraine, un jeune homme de 22 ans, selon nos informations.
On va parler santé à présent. On savait que l'épidémie de Covid repartait, mais le chiffre des dernières 24 heures est impressionnant. 200 000 cas positifs.
Oui, 200 000 cas en 24 heures, annonce du nouveau ministre de la Santé, François Braun. Portant lui-même un masque sur le visage, il a lancé un appel à la prudence devant la commission des lois de l'Assemblée.
Aujourd'hui, c'est clair, il faut mettre son masque dans les lieux bondés, comme ici par exemple. Il faut mettre son masque dans les transports en commun. Il faut mettre son masque dans les transports pour les vacances. Nous avons ouvert un nouveau rappel pour les personnes les plus fragiles face au virus. Là aussi, je le dis avec solennité, il faut se faire vacciner quand on est fragile. Et il faut le faire maintenant, alors que nous n'avons pas atteint le pic. Je le dis en tant que médecin urgentiste, j'ai vu bien trop de morts évitables.
Le ministre de la Santé, François Braun, qui précise que la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid n'est pas d'actualité. Demain, Elisabeth Borne va présenter son projet devant l'Assemblée, sans engager sa responsabilité. Juste avant cette déclaration de politique générale, l'Alliance de gauche, la NUPES, déposera une motion de censure. Et premier dossier qui sera présenté jeudi en Conseil des ministres, celui du pouvoir d'achat, 25 milliards d'euros de mesures qui doivent encore être votées. Aide alimentaire d'urgence, remise carburant ou encore revalorisation des retraites.
Le verdict est tombé devant les assises du Haut-Rhin. Peine maximale pour Jean-Marc Reiser.
Oui, il a été reconnu coupable de l'assassinat de la jeune étudiante Sophie Le Tan et a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté, Gladys Laffitte.
Oui, c'était la peine maximale encourue par Jean-Marc Reiser. La cour d'assises a délibéré en un peu plus de 2 heures, c'est assez rapide. Et à l'énoncé du verdict, le condamné a semblé fermer les yeux. A l'inverse, cette peine de prison lourde est vécue comme un soulagement par la famille de Sophie Le Tan. À la sortie de l'audience, tous se sont pris dans les bras, longuement, en pleurant. La maman de Sophie s'est exprimée pour la première fois depuis le début du procès, en vietnamien, traduit par sa nièce Nadine.
La perte de Sophie n'est pas mesurable, la douleur restera immense. En parallèle, on est satisfait de la peine qui est prononcée à l'encontre du coupable. Les parents savent que Sophie veille sur nous et que sa bonne étoile sera toujours auprès de nous.
Alors la famille s'attend à ce que Jean-Marc Reiser fasse appel de sa condamnation comme il en a le droit. Il a 10 jours pour le faire. Tout au long du procès, il a été très procédurier et à 61 ans, en l'état, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Un nouveau procès pourrait donc avoir lieu.
Gladys Laffitte aux assises du Bas-Rhin à Strasbourg. Encore un homme politique soupçonné d'agression sexuelle. Il s'agit d'André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux. 2 plaintes ont été déposées contre lui par 2 employés de la mairie âgés de 24 et 31 ans, un ancien chef de cabinet et un ancien huissier.
Il est 19h06 sur Europe 1. Si vous partez en vacances ou en déplacement demain, prenez vos précautions. Les cheminots seront en grève pour demander de meilleurs salaires.
Oui, la SNCF recommande d'ailleurs d'annuler ou de reporter son voyage. Le mouvement commence en ce moment même. Il prend fin jeudi matin à 8h. À quoi faut-il s'attendre, Aurélien Fleureau?
Alors, il y aura de nombreuses perturbations, en particulier sur le réseau des trains régionaux, avec seulement 40% du trafic assuré. C'est une moyenne nationale, donc il faut vraiment aller vérifier région par région si votre train est maintenu. Impact important également en région parisienne, avec plusieurs lignes qui n'auront pas plus d'un train sur 2 ou même parfois 1 sur 3. 50% du trafic, par exemple, sur les RER B, C, D et E. Même chose pour les lignes intercités, 1 train sur 2 entre Paris et Clermont. Du côté des TGV, c'est un peu mieux, mais tout de même, de nombreuses suppressions sont prévues sur l'axe Est en direction de Strasbourg. Tous les syndicats de cheminots ont appelé à rejoindre ce mouvement social pour demander des hausses de salaire. Il n'y en a pas eu depuis 2014 à la SNCF. Et là, ils demandent un geste d'urgence pour faire face à l'inflation. Une réunion est prévue avec la direction. Demain matin, l'enjeu sera forcément de savoir si le premier week-end de départ des vacances scolaires sera lui aussi perturbé.
Aurélien Fleureau, et en revanche, pas de perturbation pour les trains à destination de l'étranger.
Très confiants ou tremblants, ils étaient plus de 700 000 à attendre les résultats du bac aujourd'hui.
Du premier coup, au rattrapage ou pas du tout, la réponse est tombée ce matin. 40% de l'épreuve reposait sur le contrôle continu, 60% sur des épreuves terminales. Si beaucoup ont trouvé leurs résultats sur le net, d'autres tenaient à venir vérifier de leurs yeux. Reportage à Paris de Wilfried de Villers.
Cri de joie, grand sourire et soulagement dans la cour de ce lycée du 15e arrondissement. L'heure est à la fête. Hamza brandit ses résultats. Le bac, c'est dans la poche et avec mention.
Mention, c'est bien, let's go!
Tout le monde a crié parce que moi, après, tous mes potes qui l'ont eu. Ça veut dire qu'on pourra faire la fête et tout. Je suis content pour mes potes et pour moi aussi. J'étais pas très très loin de bien, mais je suis content quand même. Je suis soulagé. Les vacances peuvent enfin commencer.
Pas de session rattrapage non plus pour Charlotte. 2 très bons points dans certaines matières et d'autres plus délicates.
L'économie, j'ai eu une bonne note et la philo. Un peu plus compliqué, mais je m'attendais à pire.
Allez, il est temps de souffler après une période intense. En filière spécialisée, Olivia sort d'une très longue année.
J'en avais 8 des épreuves et pas 4. Je suis en section internationale et franchement, c'était énormément de travail. Ça fait du bien d'avoir fini.
Et tu t'en es bien sorti du coup?
Oui, j'ai eu mention très bien.
Après les éclats de joie avec les copains, il faut annoncer la bonne nouvelle aux parents.
Ils pensaient que j'allais pas avoir le bac, mais ils sont super contents. Je les ai appelés, ils étaient trop contents. Ma mère, elle a pleuré carrément.
2 mois de belles vacances en prévision pour ces bacheliers. Ils débuteront ensuite leur nouvelle vie d'étudiant.
Et comme le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, il l'avait laissé entendre ce matin, le taux de réussite avant rattrapage est en baisse. 86% de reçus, moins 4,7 points par rapport à 2021.
Alors avoir son bac, c'est bien, mais décrocher la médaille Fields, c'est encore mieux.
Oui, un prix qui récompense les découvertes exceptionnelles de chercheurs de moins de 40 ans. L'équivalent d'un prix Nobel de maths vient d'être décerné à 4 mathématiciens, dont le français Hugo Duminil-Copin. Quelle est la trajectoire de ce jeune lauréat français, lors d'Autriche ?
Eh bien, il a un parcours brillant, classe prépa au lycée Louis-le-Grand à Paris, élève à l'école normale supérieure avant une agrégation de mathématiques. Il est ensuite recruté par l'université de Genève, où il travaille encore aujourd'hui, ainsi qu'à Paris comme professeur et chercheur. Hugo Duminil-Copin s'est tourné vers les mathématiques parce qu'il sentait qu'il pourrait être créatif dans cette discipline. Mais personne dans sa famille n'appartenait à cet univers.
Mon papa était professeur de sport et ma maman était danseuse puis institutrice, donc il n'y avait pas vraiment de maths dans la famille et j'étais pas prédestiné du tout à devenir mathématicien. Par contre, j'avais des parents qui m'ont vraiment ouvert à beaucoup de domaines différents, le sport, la musique. Donc, je ne lisais pas de livres à 10 ans, de livres universitaires sur les mathématiques.
Hugo Duminil-Copin voit les maths comme un plaisir, le plaisir de jouer avec son cerveau, c'est ce qu'il dit. Sa spécialité aujourd'hui, c'est d'étudier des phénomènes physiques, mais d'un point de vue mathématique. Ses travaux ont permis d'ouvrir de nouvelles pistes sur des sujets tels que l'anticipation de phénomènes climatiques ou la propagation des maladies infectieuses.
Et puis, deuxième femme à gagner cette médaille Fields en 80 ans d'histoire, Marina Vyazovska. Elle est récompensée, elle est ukrainienne et depuis 2017, elle est professeure à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse.
La tête et les jambes, cette fois c'est acté. Christophe Galtier est bien le nouvel entraîneur du PSG.
Oui, c'est officiel depuis cet après-midi. Le Français de 55 ans, ex-entraîneur de Nice, a signé pour 2 saisons avec le club champion de France. Il était présenté à la presse tout à l'heure au Parc des Princes, une conférence à laquelle vous avez assisté, Cyril de la Morinerie.
Oui, le nouvel entraîneur du PSG a fait forte impression pour sa première sortie médiatique. Aux côtés de Nasser Al-Khelaifi, Christophe Galtier a d'abord exprimé son émotion d'être nommé à la tête du PSG. Il comprend les gens sceptiques, mais assure être parfaitement capable d'endosser ce nouveau rôle. L'ancien joueur de l'OM n'a pas hésité à signer un contrat de 2 ans avec le club de la capitale, malgré ses origines sudistes.
Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, quand vous avez un métier de passion, on cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas le meilleur endroit autre que le Paris Saint-Germain.
Et avec Christophe Galtier, c'est la fin des paillettes, des passe-droits. Tous les joueurs seront logés à la même enseigne.
Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Mon objectif, évidemment, ce n'est pas de leur apprendre à frapper du pied gauche ou frapper du pied droit ou être bon de la tête. C'est de faire en sorte que cette somme de talents deviennent une grande équipe avec une grande force.
Christophe Galtier souhaite que Neymar reste. Il a également répondu à une question d'Europe 1 sur Kylian Mbappé. Pour le nouvel entraîneur parisien, la star de 23 ans est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il ne faut pas lui rajouter de la pression. Galette, comme on le surnomme, connaît sa feuille de route. Faire le spectacle avec le PSG et remporter la prestigieuse Ligue des Champions.
Et changement d'entraîneur aussi à l'OM, le Croate Igor Tudor succède à Georges Sampaoli. Du côté des Girondins de Bordeaux, l'ambiance est carrément sinistre. La rétrogradation administrative du club en 3e division est confirmée par le gendarme financier du foot, la DNCG. On s'oriente donc vers un dépôt de bilan. Ces deux supporters des Girondins viennent d'apprendre la nouvelle sur Internet et n'arrivent même pas à lire la suite.
Je l'ai vu, je me suis arrêté là au titre parce que je suis tout simplement dépité. Ça fait des semaines... On n'a pas du tout été capable de mobiliser des fonds pour la survie du club. Imaginez les Girondins en national, c'est tout simplement pas possible pour nous. Ça nous est jamais arrivé notre histoire. Je suis très triste, abattu. Je ne sais pas quoi en penser honnêtement. C'est comme si le ciel venait de s'écrouler sur Bordeaux.
C'est un immense coup de massue, forcément. Et aujourd'hui, la sanction, elle est malheureusement légitime parce que voilà, on avait des artifices autour de ce qui se passait vraiment sur la réalité financière du club. Et voilà, aujourd'hui, on voit ça comme un retour de boomerang qui fait extrêmement mal à la tête. Le club risque de disparaître pour un moment de la carte du football français, au moins au haut niveau.
Des supporters joués par Alexandra Gégé et Arthur Pereira. Pour ce qui est de la grande boucle, de retour en France après 3 jours au Danemark, c'est le maillot jaune Wout van Aert qui remporte en solitaire la 4e étape à Calais. Les détails dans le Club Tour à 19h40.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
La météo avec vous, Valérie Darmon. Encore une belle journée ensoleillée demain.
Effectivement, avec de la Bretagne aux Ardennes, un ciel un tout petit peu plus variable qu'ailleurs. Partout ailleurs, le soleil va s'imposer très largement. Le temps est donc estival et orageux aussi sur le relief pyrénéen. Mistral et Tramontane qui soufflent en vallée du Rhône entre 40 et 70 km/h. Mais c'est une journée tout à fait estivale qui s'annonce pour tout le monde. Plus ou moins nuageuse le long des côtes de la Manche, mais c'est le seul petit bémol que nous allons trouver demain. Les minimales vont osciller entre 9 et 14 degrés sur une grande moitié nord, 15 à 22 du sud-ouest à la Provence et en vallée du Rhône. Les maximales vont varier entre 23 et 27 sur la moitié nord et le massif central, 22 sur les bords de la Manche, entre 27 et 31 sur le sud-ouest, entre 30 et 35 sur les régions méditerranéennes, ces valeurs qui sont un petit peu en baisse parce qu'aujourd'hui on a atteint 40 degrés à l'ombre dans le Var, 39,8 à Cogolin, 39,5 à Fréjus et 39,3 aux Arcs.
Merci beaucoup Valérie Darmon pour ces températures. Merci Hélène Zélani. On se retrouve demain dans un instant. Les débats de Punchline. On reviendra sur la volte-face du gouvernement à propos du pouvoir d'achat. Pas de promo à 50% dans les supermarchés. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.